Comme il n'y a pas de question, je présume que tout a été compris. Je suis très satisfait. Nous allons essayer de bien saisir ce que représente cette opération fondamentale de notre vie intellectuelle, qui, de fait, fonde le réalisme de l'intelligence. C'est pour ça que c'est important. Et toute philosophie idéaliste, et elles sont nombreuses, part dans un sens différent. Alors, évidemment, si on voulait bien développer cela, il faudrait pas mal de cours. Je ne peux que vous indiquer quelques pistes. Et je crois très important, c'est un des lieux. Je l'ai dit tout à l'heure, et on en touche beaucoup aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure que le rapport entre l'affirmation et la négation, la priorité de l'affirmation sur la négation, c'est quelque chose de capital. Ce que je crois être un des grands tournants de la pensée, de la modernité, si vous voulez, de la pensée contemporaine, c'est affirmer la primauté de la négation. Il faut voir comment on affirme la primauté de la négation. On affirme la primauté de la haine sur l'amour. Je n'entre pas plus dans ce problème. Mais au-delà de cela, et c'est peut-être là où on peut seulement comprendre pourquoi l'affirmation est première par rapport à la négation. C'est que au-delà de cette diversité d'affirmation et de négation, il y a cette première opération, je dis bien, je la déterre, méthode archéologique, méthode critique, je la déterre, parce que vous n'en avez pas une conscience immédiate. Vous avez conscience du jugement. Nous avons tous conscience quand nous affirmons quelque chose que nous nions, tant qu'on garde un peu de sang-froid. Tandis que vous n'avez pas conscience immédiate du premier moment où vous avez saisi animal. Vous avez saisi homme. J'ai demandé une fois à un psychanalyste freudien, lui aussi qui a une méthode réductive, une méthode archéologique, puisqu'ils saisissent les nœuds, la négation, s'ils pouvaient saisir le premier moment où l'intelligence concevait, appréhendait, après lui avoir expliqué ce que ça représentait comme vie de l'intelligence. Alors il m'a dit, j'ai jamais pensé, si ça ne m'étonne pas, parce que vous ne regardez que l'affectivité et que vous oubliez que l'affectivité est commandée par la connaissance, et donc vous n'irez jamais assez loin, parce qu'au-delà de l'affectivité, il y a la connaissance. Et la connaissance a une noblesse unique. On n'est pas finalisé par la connaissance, on est finalisé par un bien. Mais c'est la connaissance qui me fait toucher ce bien et qui me fait le découvrir. Donc il n'y a pas d'affectivité sans la connaissance. Donc au niveau fondamental, la connaissance est antérieure. Et c'est pour ça que saisir le noyau premier de ma vie intellectuelle, le moment où naît en nous le concept. C'est quand même très important. Descartes dira qu'on a des concepts innés. Alors c'est pour ça que pour lui, il n'y a pas de problème. Le petit enfant, il est né avec le concept d'être, le concept de bien. Alors l'éducation est évidemment très réduite, puisqu'il n'y a tout simplement qu'à faire qu'il soit éveillé. Et dès qu'il est éveillé, il est philosophe. Ça, c'est Descartes. Descartes a oublié de regarder les enfants pour voir qu'il fallait apprendre et qu'il fallait travailler, qu'on n'a pas de concept inné. C'est par le travail qu'on devient intelligent et que tout homme peut devenir intelligent. Plus ou moins, s'il a le temps de réfléchir, mais quand même, il peut. Autrement, on ne ferait pas de cours. Comprenez bien. On fait des cours pour rendre plus intelligent, c'est évident. J'en ai la conviction qu'on peut éduquer des intelligences à tout âge. C'est ça qui est merveilleux. Pas les mathématiques. Mais la philosophie, oui. L'intelligence comme intelligence, on peut l'éveiller à tout âge. Même, il vaut quelquefois mieux être un peu plus avancé dans l'âge pour mieux comprendre la philo. Parce qu'on a plus d'expérience. Quand on est très jeune, on est pris par les passions. Et quand on est pris par les passions, on a de la peine à creuser. On trouve que c'est perdre son temps. Tandis que quand on est plus âgé, on comprend. Il faut découvrir ce qu'il y a de fondamental, parce que toute erreur par rapport à ce qu'il y a de fondamental a d'immenses conséquences. Ce que dit Aristote à propos de la source, en disant que la déviation d'une source a d'immenses importances. Et c'est vrai. Si donc l'appréhension, cette attitude fondamentale de l'intelligence, dans sa réceptivité, c'est le fondement. Vous voyez qu'il y a là quelque chose de très important à saisir. Saint Thomas nous dit que l'appréhension saisit quelque chose d'indivisible. Elle saisit les formes, elle saisit les structures, elle saisit les déterminations. C'est pour ça que je crois que c'est l'appréhension qui saisit ce que le vieil Aristote appelle les 10 catégories. Alors, je vous rappelle ça parce que c'est quand même important, ça. Ça fait rien, que voulez-vous? Il y a un déficit. Oh. Il a prévu le manque, non? Non, non, ça fait rien, laissez. Je vais simplement les énumérer. Alors, voyez-les écrites. La substance, la quantité, la qualité, la relation, la passion, l'action, le temps, le lieu, le situs, c'est très difficile à traduire, la situation dans laquelle vous êtes. Et puis, le dernier, qui est le fourre-tout, on dit l'habitus, l'habit. C'est la dernière détermination. C'est très important, ça, ce que je vous dis là. Parce que depuis Aristote, on n'a pas ajouté une seule catégorie en plus. C'est donc un coup de génie qu'il a fait. Alors je reprends. C'est une manière de regarder le réel. Donc vous-même, l'aspect substantiel, atman, homme, la quantité, tout le monde comprend. Combien de kilos pesez-vous? La qualité, toutes les qualités. La relation, la passion, l'action. Je pâtis, j'agis. Ce sont des déterminations tout à fait fondamentales et premières. Le temps, je suis mesuré par le temps. Le lieu, et dans le lieu, une précision, ce qu'on appelle le situs, la situation dans laquelle vous êtes, par rapport à un ensemble. Et puis le dernier, l'habitude, c'est-à-dire le lien qui existe entre l'homme et l'outil. Entre le fumeur et sa pipe, il y a une relation très intime. Il modifie la pipe et la pipe le modifie. Il se sert d'un instrument et l'instrument, il le modifie et il est modifié par l'instrument. Vous voyez, un artisan. C'est extraordinaire l'amour qu'il a pour ses outils. Ça lui tient. Vous voyez, c'est au fond, c'est la propriété. Quand vous usez d'une chose, d'un objet, d'un outil, au bout d'un certain temps, il y a votre mainmise dessus. C'est votre propriété. Par l'usage, ça devient votre propriété. Le droit de propriété. C'est ça. C'est parce que vous êtes modifié par un outil dont vous vous êtes servi et vous modifiez la réalité par l'outil. Alors, le vêtement, c'est aussi quelque chose qui me modifie. Les pieds ont été modifiés à partir du moment où on a porté des bottines, des souliers. C'est bien évident. Ça se modifie. Il y a une modification des choses en fonction de ce qui s'ajoute à vous. Un animal ne se sert pas normalement de manteau. Ce n'est que le petit chien domestique auquel vous mettez un petit manteau. Et vous voyez tout de suite que ce n'est plus un chien sauvage. Et vous voyez la trace de son propriétaire et le goût du propriétaire. Par le petit manteau, c'est très facile à comprendre. C'est vrai, un chien ne s'habille pas. Il est poilu par nature. Il ne s'habille pas. Il ne se rase pas. C'est très très curieux, ça. Il est habillé par nature. L'habit fait un lien particulier à l'usage. Alors, c'est caractéristique à l'homme, vous voyez ça, l'habitus. Donc, il y a 10 déterminations fondamentales qui sont l'objet propre de l'appréhension. Et je ne crois pas qu'il y en a d'autres. C'est ça qui est remarquable. Vous saisissez le pointillé de l'intelligence. Parce que c'est le pointillé de l'intelligence. Quand l'intelligence est en face d'une réalité, elle saisit la qualité, la quantité, la relation, l'aspect radical, substantiel, puis toutes les autres. C'est vraiment de cette manière-là que l'intelligence saisit, touche la réalité, mais dans une attitude de réceptivité. Alors, on va se poser la question, une fois qu'on a découvert, vous voyez, il faudrait... Ici, je vous cite Aristote.
sens.
On n'a pas modifié les 10 prédicaments d'Aristote. C'est ça qu'on appelle les 10 prédicaments. On ne l'a pas modifié. On les a utilisés de multiples manières et il y a des discussions encore aujourd'hui devant, parmi les spécialistes d'Aristote, de savoir qu'est-ce que ça signifie les 10 prédicaments. Et je comprends très bien que quand on vient d'une philosophie idéaliste, c'est très très difficile de comprendre les 10 prédicaments d'Aristote. Parce que c'est là où on touche le réalisme d'Aristote. Si on entre dans sa philosophie réaliste, on comprend très bien que les 10 prédicaments représentent tout simplement ces 10 touchés, je dis bien les 10 touchés de l'intelligence par rapport au réel, que vous retrouvez à travers tout le langage. Ce sont catégorie, c'est-à-dire ce qui est attribué. Ce qui est attribué au sujet. Le sujet, comme tel, n'est pas appréhendé. Ce que vous appréhendez, ce sont des formes quiditatives. C'est la quiddité. La quiddité, c'est-à-dire une forme indivisible. Vous le saisissez ou vous ne le saisissez pas. Il n'y a pas d'erreur. Parce que vous le saisissez, il y a des gens qui n'ont jamais saisi la qualité. Je regrette, mais ça arrive. Ce qui leur importe, c'est d'avoir beaucoup de vin. La qualité n'a aucune espèce d'importance. Vous voyez, la société d'aujourd'hui perd le sens de la qualité. Et c'est plus que la quantité qui compte. Parce que c'est l'efficacité pure. Alors c'est plus la qualité. Celui qui a saisi la différence entre la qualité et la quantité, on aura beau lui démontrer par la dialectique que la qualité et la quantité, ça s'intervient, il dira non. Pour moi, prendre du bon vin ou du vin qui est d'étiquette, c'est pas la même chose. C'est vrai. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Celui qui dirait que c'est la même chose, je dirais, il lui manque quelque chose quand même. Il lui manque d'avoir bon goût. C'est ennuyeux. Pas savoir discerner la qualité et la quantité. La diversité des qualités et la quantité. La dialectique hegelienne aboutit à faire qu'on passe de la qualité à la quantité. C'est le propre de la dialectique. C'est assez affolant, mais c'est comme ça. Le réaliste dit non. La qualité et la quantité, c'est deux choses distinctes. Et je n'arriverai jamais à me convaincre que je peux passer de l'un à l'autre. Parce qu'il y a quelque chose d'unique dans la qualité. Une intelligence pénétrante. C'est pas la même chose que quelqu'un qui accumule une information sans rien comprendre. Il y a des gens qui sont des bourreaux de travail. Ils accumulent, ils ne comprennent rien. C'est pas la même chose. L'extension et la compréhension, comprendre quelque chose, l'intelligence qui saisit quelque chose, ce que saint Thomas dit en disant « intus legere », lire de l'intérieur. C'est ça l'appréhension. C'est très étonnant, hein. C'est la pointe de l'intelligence qui touche quelque chose. Ce n'est pas ce qui est le plus parfait. La perfection de la vie de l'intelligence se donne dans le jugement. Mais c'est quelque chose d'élémentaire, mais au sens qualitatif. Quelque chose qui ne se remplace pas. Parce que l'élémentaire, c'est peut-être quelque chose qui ne se remplace pas. Il y a un élémentaire matériel, il y a un élémentaire qui est d'ordre qualitatif. L'élémentaire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. Vous ne pouvez pas remplacer ce toucher de l'intelligence qui saisit les diverses formes de la réalité. C'est là où l'intelligence commence sa vie intellectuelle. Alors, il y a un problème important, c'est de comprendre que cette opération d'appréhension n'existe jamais sans jugement. C'est très vrai. Parce que le jugement premier, c'est toujours « ceci existe ». C'est ça qui est premier. Mon intelligence expérimente. Elle touche la réalité, elle l'atteint. Et elle dit « ceci existe ». La philosophie commence toujours par les réalités qui existent. L'homme existe, j'existe, je suis. Et dans ce jugement d'existence, l'intelligence saisit certaines déterminations. Donc, l'appréhension ne peut pas se séparer du jugement, mais elle est autre chose que le jugement. Mais elle est toujours donnée dans le jugement. Et elle est, par rapport au jugement, ce qu'il y a de tout à fait élémentaire. De premier, d'indivisible, blanc. Et blanc, ça signifie quelque chose pour ceux qui ont eu l'expérience du blanc. Ils ont eu l'expérience du blanc du mur, l'expérience du blanc du visage, l'expérience du blanc de la neige, et ainsi de suite. Puis, à partir de ces expériences, ils ont conçu la signification de blanc. C'est très curieux, ça. Réfléchissez, ce sont des choses qu'on ne réfléchit pas d'habitude, hein. Mais ça, c'est propre des philosophes. Ils déterrent les choses tout à fait élémentaires sur lesquelles on ne réfléchit pas beaucoup, qui sont très importantes, parce que si on commence à les confondre, les confusions iront très loin. Si vous oubliez ce premier moment de l'appréhension, vous ne pouvez plus sauvegarder la vie de l'intelligence dans son autonomie. Vous ne pouvez plus sauvegarder la vie de l'intelligence dans son réalisme objectif. Alors, je vais essayer maintenant de comprendre ce que représente cette première opération, cette appréhension. Cette appréhension, c'est le premier moment de la vie de l'intelligence. C'est donc l'intelligence qui s'assimile certaines déterminations. La vie, dans sa première opération, a toujours un mode d'assimilation. Toujours. C'est le propre du vivant. Toute opération première est une opération d'assimilation. C'est pour ça, quand vous n'assimilez plus, c'est le signe que ne vous vivrez plus très longtemps. On assimile l'aliment dans la vie végétative. On assimile l'oxygène. On respire. L'assimilation est caractéristique du vivant. Un vivant, dans la mesure même où il est vivant, assimile. Ça, je crois que c'est la première façon pour nous de saisir ce que c'est que le vivant. À la différence du non-vivant qui n'assimile pas. Quand on est mort, on n'assimile plus. On peut accumuler des tas de choses, mais on n'assimile plus. C'est la différence, voyez, du vivant et du non-vivant. Le vivant est capable de faire que quelque chose qui est extérieur à lui devienne lui. Et faire que quelque chose qui est antérieur à lui devienne lui. Il y a un phénomène d'immanence qui se réalise à travers l'assimilation. Cette assimilation de l'intelligence, à la différence de l'assimilation biologique, est une assimilation qu'on va dénommer intentionnelle. L'intelligence assimile la réalité sans la détruire. Alors qu'au niveau biologique, quand vous assimilez quelque chose, vous le détruisez. Vous ne pouvez pas assimiler l'aliment sans le détruire. Tandis qu'au contraire, vous pouvez connaître quelque chose sans le détruire. Il y avait beaucoup à dire là-dessus. Parce que c'est quand même ce qu'il y a de tout à fait particulier à la vie. Et à la vie sensible, à la vie intellectuelle. Le vivant lutte dans la vie végétative et biologique. Il lutte pour acquérir son aliment. Et il lutte pour l'acquérir d'une façon telle que cet aliment, il le prend pour lui. Cet égocentrisme de la vie biologique. C'est bien évident que quand on est plusieurs sur le même terrain, on aura moins à manger. On divise la tarte en 2 ou en 10, c'est pas la même chose. Dès que vous passez au niveau de la connaissance, le propre de la vie de connaissance. Écoutez, je ne sais pas ce que vous dites là-bas, ça doit être passionnant. Depuis 10 minutes, vous parlez tout le temps. Je ne peux pas supporter ça, vous savez. Alors, si ça ne vous intéresse pas, je vous demande de sortir. Parce que c'est très, très gênant, vous savez. Ou vous venez ici pour apprendre quelque chose, alors très bien. Ou vous venez ici pour rigoler, alors non. On ne peut pas supporter ça. C'est une indiscipline. Mais invraisemblable, je ne sais pas quel âge vous avez, mais je crois que vous êtes des adultes. Alors je ne sais pas, la première politesse, c'est d'écouter celui qui parle. Et quand c'est difficile, on doit se taire pour vous concentrer. Je suis persuadé que vous n'avez rien compris au cours d'aujourd'hui. Ça, j'en suis sûr. Je pourrais faire passer un petit examen devant tout le monde, ce serait très amusant. Parce qu'alors on verrait que vous n'avez rien compris. Alors, où vous venez ici sans aucun intérêt, alors c'est pas la peine de venir. J'aime mieux qu'il y en ait 10 qui viennent avec un intérêt que des quantités qui viennent sans intérêt. Parce que je crois qu'il faut être loyal dans la vie. Donc, je ferme la parenthèse, mais je vous demande d'écouter. Et si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez partir, il y a encore un quart d'heure. Alors, continuons. Essayons de comprendre ce que représente cette assimilation intentionnelle qui est au niveau de la connaissance. Et ceci, c'est très important parce que, là encore, le réalisme de la connaissance, il est dans cette assimilation intentionnelle. Où je suis capable de recevoir une détermination extérieure à moi et elle devient intérieure à moi. Cette chose très curieuse. Vous voyez, c'est analogue à l'assimilation biologique, où l'aliment est extérieur et il devient intérieur, mais ça ne se fait plus dans la destruction, ça se fait uniquement d'une façon positive. Mon œil, quand il voit le rouge, il est impressionné, intentionnellement. Quand vous sentez la qualité du petit pain frais, votre odorat est impressionné. Et vous êtes pris par cette qualité. Les sensations me permettent de saisir des qualités que je ne possédais pas avant et que je possède. qui viennent me qualifier, m'impressionner. La connaissance sensible, c'est pas parce que vous regardez le rouge de la rose que la rose perdra son rouge. Vous pouvez être 10 à le regarder, 100, ça ne bougera pas. Sauf si vous avez le mauvais œil. Mais ça, c'est différent. C'est autre chose. Mais autrement, normalement, cette chose très étonnante de la connaissance, c'est que vous recevez sans prendre à vous êtes pris par cette qualité. Les sensations me permettent de saisir des qualités que je ne possédais pas avant et que je possède, qui viennent me qualifier, m'impressionner. La connaissance sensible, c'est pas parce que vous regardez le rouge de la rose que la rose perdra son rouge. Vous pouvez être 10 à le regarder, 100, ça ne bougera pas. Sauf si vous avez le mauvais œil. Mais ça, c'est différent. C'est autre chose. Mais autrement, normalement, cette chose très étonnante de la connaissance, c'est que vous recevez sans prendre à l'autre, sans diminuer l'autre. C'est ça l'objectivité de la connaissance. Vous êtes capable d'être modifié par la qualité que vous sentez. Et étant modifié par la qualité que vous sentez, vous êtes changé. Mais vous ne changez pas celui qui vous change, celui qui vous modifie. Vous pouvez être. Et ceci, c'est vrai au niveau de la connaissance sensible, de nos sensations. Et c'est encore beaucoup plus vrai au niveau de l'intelligence. Dans la connaissance intellectuelle, vous êtes capable de recevoir telle ou telle détermination fondamentale. La forme qualité. La forme quantité. Sans modifier cette réalité. Sans la détruire. L'analyse intellectuelle, elle ne se fait pas sur la réalité, elle se fait dans l'intelligence. Évidemment, de temps en temps, vous allez dire, quand je dis sec, bon, oui, ça c'est autre chose. Hein. C'est parce que, de fait, il y a des obstacles que vous voulez supprimer. Alors faites des fouilles. Mais autrement, quand votre intelligence est en face de la réalité qu'elle connaît, elle est modifiée par cette réalité, mais elle ne la modifie pas. Alors, il faut essayer d'expliquer ça. Ce que c'est que cette assimilation intentionnelle. Vous voyez, on a inventé un mot, il faut bien, et on a dit assimilation intentionnelle. C'est-à-dire que je suis changé par la forme qualitative ou quantitative, je suis changé par cette forme, je me l'assimile, je la porte au-dedans de moi-même, et je ne modifie pas celui que je connais. C'est le respect de la connaissance. La connaissance est toujours respectueuse de celui qu'elle connaît. Et ça, c'est très important. Parce que ça fait comprendre ce que c'est que la vie intellectuelle. La vie intellectuelle respecte l'autre. Alors que la vie végétative pure ne respecte pas. Et quand vous ne saisissez plus ces niveaux différents de la vie végétative et de la vie intellectuelle, vous transportez les mœurs de la vie végétative sur les mœurs de la vie intellectuelle. On pourrait donner des tas d'exemples. Alors que le propre de la connaissance, c'est d'être modifié sans modifier. Alors nous allons ici toucher ce problème. Comment l'intelligence va être déterminée par exemple, animal. Parce que tous nous pensons animal, tous nous concevons animal, ou nous concevons homme. Comment l'intelligence est-elle arrivée à découvrir animal? Comment l'intelligence a pu découvrir homme? Je pars de l'expérience. Dans l'expérience, je touche tel animal, le chien. Je touche telle autre personne qui est un homme, ou moi-même. Je peux me regarder face au chien, dire je ne suis pas un chien, je suis différent, qu'est-ce qui me différencie? J'ai l'expérience. Une expérience tactile, une expérience visuelle, j'ai une expérience. Petit à petit, se forme au-dedans de moi une image. Je me représente le chien. Je me représente l'homme. Donc il y a une image. Une image qui implique le point de vue de la représentation. Mais ce n'est pas encore ça qui me donne la signification. Comment passer de l'image visible, singulière, à la forme intentionnelle qui détermine mon intelligence et que mon intelligence est capable de concevoir? Comment se fait ce passage du visible à l'invisible? On peut dire que c'est le problème de toute philosophie. Comment se fait le passage du visible à l'invisible? La signification de animal est quelque chose d'invisible. Vous ne pouvez pas la représenter. La signification de homme est quelque chose d'invisible. La signification d'un principe ou d'une loi est quelque chose d'invisible. Domaine de l'intelligence. Alors que le domaine de l'imagination, c'est le domaine d'image, où je me représente tel ou tel animal. Et ça, c'est la représentation, qui reste une représentation imaginative. Alors que lorsqu'il s'agit de l'intelligence, ça signifie quelque chose. Et c'est le gros, gros problème, hein. C'est un problème devant lequel tous les philosophes se sont heurtés. Tous. C'est problèmes philosophiques. Le dernier livre, vous savez, de Merleau-Ponty, qui a paru après sa mort, du visible à l'invisible. Et Merleau-Ponty dit, c'est le problème fondamental de toute philosophie. Et c'est vrai. Comment je passe du sensible? Or, je dis que l'appréhension, c'est le fondement de ma vie intellectuelle. C'est donc le premier moment de ma vie intellectuelle. C'est lorsque j'assimile telle ou telle détermination, que je conçois telle ou telle détermination, que je conçois à Ima. Si c'est bien ce premier moment, comment suis-je passé de la représentation de tel ou tel animal à animal? Il y a eu là un passage qu'on appelle l'abstraction. C'est l'abstraction. J'abstrais de une quantité de chiens. J'abstrais d'une quantité d'expériences d'hommes. J'abstrais donc d'une image sensible la signification de quelque chose qui aura un mode universel. L'universel est le fruit de l'abstraction. Cette abstraction, qu'est-ce qui l'a fait? C'est mon intelligence. Quand je suis attentif, je suis capable de penser. C'est pour ça qu'il faut du silence pour penser. Si on est trop distrait, si on discute de trop, on ne pense plus. Il y a une certaine, nécessairement, ça ne peut pas être autrement. Il y a une certaine concentration pour abstraire. Il y a des gens qui n'abstraient jamais. Je me souviens, c'était dans un livre qu'on lisait au réfectoire, alors ça prend une tonalité particulière. Dans sa vie, il a atteint une fois le degré de l'universalité. Donc il a abstrait une fois dans sa vie. C'est pas tout à fait vrai, parce que je crois qu'on abstrait beaucoup plus. Et on abstrait constamment. Notre langage est au niveau de l'abstraction. Mais nous ne pensons pas. Des quantités de gens parlent sans penser. C'est ça qui est terrible. Il suffit d'arrêter leur conversation, puis leur demander ce que ça signifie, ce qu'ils ont dit, et ils ne savent pas. Donc, ils utilisent des mots abstraits sans savoir ce que ça veut dire, sans la signification. C'est terrible. Falsifier l'argent, c'est un crime. Falsifier la signification des mots, c'est terrible. Et ça arrive constamment, ça, parce que les gens ne pensent plus. Ils n'ont plus le temps de penser. Alors ils parlent indéfiniment. Ils ne pensent plus. Alors, comment ce passage, vous voyez, ce passage de l'image singulière, c'est descriptif ça, l'image peut la décrire, à ce concept animal que j'exprime par ma parole, qui a une signification universelle et abstraite. Certains ont dit, alors je reviens à Descartes, c'est inné. C'est Dieu qui nous l'a donné. C'est une solution rapide. On donne sa langue au chat. Même quand on dit que ça vient de Dieu. N'est-ce pas? C'est tout simplement faire appel immédiatement à Dieu. Je ne crois pas du tout. Je crois que Dieu a voulu que chacun d'entre nous, nous soyons autonomes dans notre vie intellectuelle. On est dépendant dans son cœur, et si Dieu veut que nous soyons intelligents, et que nous essayons de raisonner, de comprendre un peu. Or, si ça vient directement de Dieu, il n'y a plus de vie de l'intelligence au sens absolu. Saint Augustin a dit, l'illumination, c'est une autre solution. Et c'est pas suffisant. Aristote a dit, et je reprends Aristote de Saint Thomas, a repris cette notion d'Aristote. Il l'a reprise en discutant toutes les possibilités de cette discute, de cette position, pour montrer qu'elle était capitale. Je crois que c'est la seule manière pour nous d'éviter Kant, d'éviter Descartes, d'aller plus loin. Aristote dit qu'il y a en nous l'intelligence active, le nous, poietikos, c'est-à-dire le nous actif, l'intellect agent, comme on dira avec saint Thomas, le nous actif qui illumine nos images, pour que, à partir de nos images, la détermination fondamentale se précise et vienne spécifier, déterminer mon intelligence. Mon intelligence a donc en elle-même la capacité de découvrir, à partir des réalités que j'expérimente, ce qu'il y a de fondamental dans ces réalités. Discerner ce qu'il y a de nécessaire de ce qui est accidentel. C'est ça être intelligent, c'est de discerner ce qui est essentiel de ce qui est accidentel. Vous discernez ce qui est essentiel en découvrant animal et en laissant tomber des quantités de choses secondaires. C'est l'intelligence qui fait ça. Et l'intelligence est capable ensuite de récupérer le secondaire en regardant les qualités, en regardant la quantité, en regardant l'action, en regardant le lieu, mais elle est capable d'abord de saisir ce qu'il y a d'essentiel. Tant que vous n'avez pas saisi l'essentiel dans une réalité, vous tournez autour comme un chien de chasse qui n'a pas découvert son gibier. Le gibier de l'intelligence, ce qui détermine l'intelligence, c'est justement cette détermination fondamentale, l'essence. Sa détermination, sa forme, c'est ça qu'on veut saisir. Sa détermination caractéristique. Eh bien, je crois que nous pouvons dire que l'intelligence a cette capacité d'illuminer le fantasme, d'illuminer nos images. Et dans cette illumination des images, de faire apparaître la détermination principale, essentielle, la forme intentionnelle, essentielle, qui va déterminer l'intelligence, et l'intelligence, à partir de là, va concevoir ce qu'elle pourra dire ensuite. L'intelligence va assimiler cette forme intentionnelle pour saisir avec précision la signification de la chose. C'est donc le concours, la connaissance dans ce qu'elle a de tout à fait fondamental. C'est donc le concours de la réalité existante, de mes sens, de mon imagination, et de mon intelligence. Et mon intelligence saisit alors quelque chose qui est au-delà du sensible, au-delà de ce que je représente. Elle saisit ce qu'il y a de fondamental et de premier. Et elle le dit. Elle le saisit. Elle le touche. C'est là où l'intelligence conçoit, voyez, le concept que nous avons de blanc. Le concept que nous avons de animal, le concept que nous avons de rationnel, sont des concepts tout à fait premiers. Ces concepts, l'intelligence les saisit à partir de la réalité. et l'intelligence peut ensuite le dire. Mais elle le saisit d'abord, lié à l'expérience, lié donc au jugement, puisque toute expérience se donne dans un jugement. Vous voyez que là nous sommes en face de quelque chose de tout à fait secret dans notre vie intellectuelle. Cependant, nous pouvons le toucher. Et c'est ça qu'il faut bien saisir. Réfléchissez d'où vient tout simplement la signification de vos mots. Vous l'avez appris, c'est sûr, quand on apprend une langue. Mais au-delà de la parole, il y a la pensée qui saisit telle ou telle signification. Et c'est ça qui est important. Puisque la parole est quelque chose pour transmettre. Ce n'est pas la parole qui me donne la connaissance. La connaissance est antérieure à la parole. Et la connaissance est premièrement, dans ce qu'elle a de fondamental, cette saisie de ces formes indivisibles et premières. Donc vous voyez comment la structure tout à fait fondamentale de ma vie intellectuelle, c'est l'appréhension, le jugement affirmatif, le jugement négatif. Il faudrait, à partir de là, saisir comment je passe de l'appréhension au jugement. Comment le jugement est donné fondamentalement, permet l'appréhension, mais le jugement n'est pas l'appréhension. Et le jugement saisit quelque chose de propre que l'appréhension ne saisit pas. C'est pas seulement l'addition d'appréhension. Le jugement me met en contact direct avec ce qui est le jugement d'existence. Je m'arrête. Ha ha ha!